Guy Cuevas, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être venu jusqu'à notre studio.
Merci
On
de me
y
recevoir.
reviendra tout à l'heure. Vous êtes aveugle. Vous êtes écrivain, musicien, comédien. Vous êtes surtout donc l'homme qui a été aux platines du Palace, qui était dans les années 80 la boîte de nuit qui a accompagné la vague disco. Vous dites que vous êtes né à Paris quand vous aviez 18 ans. Mais les 18 premières années de votre vie, c'est à Cuba que vous les avez passées.
Oui.
Vous avez réussi à quitter Cuba en 1964, comment est-ce que ça s'est passé?
Par le hasard des choses. Je venais d'avoir 18 ans, donc j'avais l'âge militaire, puisque Fidel Castro venait d'instaurer le service militaire, que je me refusais de faire, puisqu'il était prévu de faire 3 ans pour couper la canne à sucre, avec un soleil de 45 degrés à peu près, et puis surtout adoctrinement militaire, vous voyez, le marxisme injecté, comme ça, en dose forte. Donc, c'était pas pour moi, tout ça. Donc, j'ai tout fait pendant un an. J'ai vu diverses personnalités qui m'ont pas donné crédit. Entre autres, le Che Guevara, justement. J'ai bien compris, il a été très affable, mais j'ai bien compris qu'il n'allait pas m'aider. Et un jour, par hasard, heureusement pas longtemps après, lors d'un réveillon chez une amie actrice d'Uruguay, on a toqué à la porte et c'était Fidel Castro qui était là. On disait que Fidel Castro était l'amant de cette actrice d'Uruguay, je n'ai jamais vérifié ce dire. Mais c'est ce qu'on disait, ça devait être vrai, parce qu'il est arrivé avec un jambon, un cadeau pour elle. Nous étions 7 convives à peu près, donc lui, il a parlé un petit peu de ce qu'il préférait parler, surtout la révolution, les pauvres, etc., ce qu'il était en train d'accomplir. Et il nous a demandé à chacun ce qu'on faisait dans la vie. Margarita prenait la peine de nous introduire, et quand est arrivé mon tour, j'ai posé mon problème, j'ai profité, je me suis lancé, mort de peur, parce que j'aurais pu aller au cachot, vu que j'avais l'âge militaire, et qu'il y avait des gens qui disparaissaient déjà, etc. On entendait déjà des choses un peu bizarres. Et non, il m'a donné crédit, visiblement. J'ai dit la vérité, que j'avais un cousin à Paris, qui travaillait à l'UNESCO, et qui m'avait adressé une lettre d'invitation pour venir à Paris, qui était mon rêve, mon rêve. C'était déjà l'Europe et Paris en particulier, à cause de tous les films de la Nouvelle Vague, de tous les films américains où je voyais la France en cinémascope couleur. Et voilà,
et
je me suis lancé.
Et là, toute attente, finalement, Fidel Castro ne vous a pas mis en prison, il vous a même facilité
À partir du moment où il a passé un coup de fil, c'est ce qui est arrivé, il a passé un coup de fil, donc à partir de là, le premier rendez-vous, c'était une dame, secrétaire de ministre des Forces armées, qui m'a dit en arrivant dans son bureau, quand est-ce que tu veux partir? Je n'avais rien prévu, et puis en plus j'étais mineur, je n'avais rien dit à mes parents, je n'avais rien. Donc d'où ma surprise.
Vous décrivez un monde culturel cubain un peu bouillonnant, que ce soit dans l'île ou quand vous arrivez à Paris après tout un tas d'étapes que nous allons passer, parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais il y a quand même une sorte d'entraide.
Oui, comme on était tous dans l'embarras, tous un petit peu dans le caca. Donc oui, c'est la débrouille, c'est le tuyau, tout le monde se file de tuyau, tout le monde dit ce qu'il a réussi à avoir dans la journée, si tu habites l'assistance sociale, à tel endroit, on te file un peu de sous, essaye ceci, essaye cela, ouais, voilà, c'est comme ça que ça marche. J'ai vite compris que je ne voulais pas faire long feu non plus dans cette ambiance comme ça, nécessiteuse. Et Dieu merci, on m'a mis sur les traces d'un photographe de cinéma, Néstor Almendros, que j'avais déjà connu à la Havane et qui faisait déjà le film de François Truffaut, jusqu'à sa mort d'ailleurs. Il a eu même le César pour le dernier métro, le film de Truffaut. Il a eu un Oscar à Hollywood pour Kramer contre Kramer. À ce moment-là, il était pareil dans l'embarras. Hein. On s'est chauffé des boîtes de raviolis dans un préchaud, un réchaud. Et c'est lui aussi qui m'a donné le tuyau, qui m'a dit d'aller voir Juan Goytisolo, un écrivain chef Flammarion, et d'aller voir Sévros Arduy, un écrivain cubain qui travaillait aux éditions du Seuil. Lui m'a mis en contact avec Roland Barthes, je ne savais même pas qui était Roland Barthes à ce moment-là. Il m'a donné rendez-vous au Flore, et là j'ai vu une ambiance de gens, de jeunes gens, et de gens décontractés, souriants. Ce n'était pas du tout des nécessiteux. Et je me disais que j'avais envie de ressembler à ça, à ce que je voyais là, autour de Saint-Germain-des-Prés.
Qu'est-ce qui vous a le plus aidé à quitter cette pauvreté du début? Est-ce que c'était d'être cubain, d'être de bonne humeur?
M'a donné un tuyau en or. Il m'a dit qu'il y avait une bourse de la Fondation Ford aux États-Unis qui s'appelait Cintas, prévue pour les artistes cubains à l'étranger. Cette bourse, si on postulait, c'était pour des artistes à l'étranger, hein, cubains, pas des artistes à Cuba, à l'étranger. Donc je rentrais dans le cadre si je me mettais à écrire. Et il m'a dit qu'il allait me servir de parrain, lui et Roland Barthes. Imaginez, Roland Barthes, bon, j'ai commencé à connaître le nom Roland Barthes. Et comme c'était 3 000 $ dans l'année, en 4 versements de 750 $, comme toujours, le dicton, l'argent, appelle l'argent, à partir de là, tout a commencé à aller bien.
Qu'est-ce qui définit votre patte aux platines quand vous avez été ce grand DJ?
Peut-être qu'il n'y avait pas de patte, qu'il n'y avait rien. C'était l'improvisation la plus complète, totale. Je n'avais avec moi que ma gaieté. Ma gaieté, mon sourire, mon oreille musicale, ça c'est inné, comme tous les Cubains, comme tous les Latino-Américains. Et comme souvent les Américains du Nord également. Et ma gaieté, justement, et comme je venais de Lille où je m'étais enfermé pour écrire, parce que je l'ai eu une deuxième année consécutive, j'ai eu de la fameuse bourse. Donc j'avais un peu d'argent, des poches, j'allais partout au puce pour acheter des disques, qui était ma passion de toujours, depuis Cuba.
Et les vêtements aussi?
Oui, les vêtements, oui. Ben, pareil, depuis Cuba, oui, ma mère m'avait inculqué ça parce qu'elle était très coquette, oui. Voilà, donc je me suis attelé à aller au puce, dans le surplus, dans des endroits où ça ne coûtait rien, grand bonheur, 50 centimes pour une chemise, un pantalon. Donc je me suis attelé à faire mon look, à me créer un personnage. J'ai commencé à travailler à mon personnage. Et comme toujours, je créais une ambiance, je mettais l'ambiance, j'invitais les gens à danser, à chanter. Je mettais la musique qui me passait par la tête, des petites opérettes cubaines, West Side Story que je venais de voir au cinéma, Marvin Gaye parce que j'adorais l'album qui venait de sortir, What's Going On, Le plaisir de Maudé d'Aznavour, j'adorais la chanson que je chantais en chœur avec tout le monde, Magali Noël parce que je la respectais depuis Les Satyricons de Fellini, je l'avais rencontré au Flore, elle m'a donné son disque Fais-moi mal Johnny, bon, j'ai passé ça aussi, rien. Je ne m'interdisais rien. Si, jamais, parce que je venais de la voir dans son spectacle au Casino de Paris. Mon truc en plume, voilà.
Est-ce que vous regrettez ces années Palace?
Les Palaces, oui. Les nuages dont j'étais en train de parler, que je commençais, non. Mais les années Palace, regretter, je ne sais pas si c'est le mot. Je regrette ces années de création, oui. De créativité intense. Qui forcément ne sont plus là, puisque là, l'époque n'est plus la même, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas de sida, il n'y avait rien. Il n'y avait que l'insouciance, la gaieté, le bonheur, le plaisir de se retrouver tous ensemble pour danser, faire la fête, sourire, etc.
Vous avez été pauvre à votre arrivée à Paris, vous avez connu la célébrité avec tout ce que cela peut comprendre d'excès. Mmh. Quand vous avez perdu la vue, vous avez été seule.
J'ai fait ma vie, et ma vie professionnelle, et ma vie qui m'a rendu heureux. Je l'ai fait entouré de 2 000, 3 000 personnes. Au Palace, on avait entre 1 500 et 3 000 personnes. Adulées, suivies. Je sortais comme des stars par une rue adjacente à cette bergère pour ne pas me retrouver à la quai de station de taxi, pour ne pas que les gens viennent me demander sans arrêt des choses, vous voyez. Parce qu'il fallait décompresser. Et puis là, tout d'un coup, je me suis retrouvé 14 années en banlieue, abandonné de tout le monde, même probablement de moi-même. Et là, seul, oui, la solitude totale. Et puis c'est là où je suis devenu aveugle. Donc là, c'était de plus en plus bas. Là, l'ascenseur allait vers le 5e sous-sol.
Ces 14 années dont vous parlez dans un petit hôtel de Thiers, vous dites que le couturier Kenzo est venu à votre secours, mettant fin à une brouille. Vous dites on se brouille pour un rien dans une vie heureuse. C'est vraiment ce que vous pensez?
En tout cas, c'est ce qui est arrivé avec lui, oui. C'était mon grand frère, mon grand ami. Et puis voilà, je veux pas, j'ai pas envie de m'attarder sur ça. Mais oui, on peut pas rien pour quelque chose. Vous savez, il y a toujours des acolytes, des satellites autour qui vous poussent pour la fameuse chose, séparer pour mieux briller. Vous voyez, il y a toujours des gens un petit peu jaloux autour. Vous voyez, quand on est trop intime, trop choisi par quelqu'un, ce qui était mon cas, par Kenzo, tout le monde remarquait qu'il y avait une grande, énorme complicité. Donc il y avait peut-être quelques personnes qui avaient intérêt à nous séparer.
Guy Cuevas, merci. Je rappelle le titre de votre livre, écrit avec Jean-François Kervéhan, « Avant que la nuit ne m'emporte », paru au Cherche Midi.